informés, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Bien, nous parlons à présent du phénomène rétro-commission dans la passation des marchés publics. Quelles sont les causes des solutions? Eh bien, certaines personnes, plusieurs voix décrivent la corruption dans le processus de passation des marchés publics. Par exemple, un agent public peut procurer un avantage injustifié à une entreprise pour l'obtention d'un marché public. En retour, cette entreprise doit lui retourner un pourcentage dans l'enveloppe reçue pour exécuter un travail d'utilité publique. Et vous verrez, à un moment, l'entreprise commence le travail, par exemple, réhabiliter la route, et les travaux s'arrêtent en cours de chemin parce qu'il n'y a plus d'argent, alors qu'il y a eu, il y a eu ces phénomènes de rétro-commission qui empêchent les travaux d'être exécutés dans les délais, comme il se doit. Alors, pour en savoir plus, nous recevons M. Olivier Mangbeta, spécialiste en passation des marchés publics à la cellule des marchés publics du ministère de la fonction publique. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, dites-nous comment s'est fait la passation d'abord. Nous voulons comprendre comment s'est fait le processus de passation des marchés publics.
Bon, je vous dis merci de m'avoir reçu dans votre plateau. Alors, ce qui est vrai, c'est que nous ne serons pas donnés tout un cours de passation de marché ici sur un plateau de télévision.
Mais de radio.
De radio, excusez-moi. Donc, oui. Je disais, alors, il nous sera difficile de donner un cours de passation de marché, mais on peut quand même retenir les grandes lignes sur le système de passation en République démocratique du Congo. Alors, pour la petite historique, il faudrait que tous nos auditeurs sachent que la passation de marché, ce n'est pas une matière nouvelle comme les uns le pensent. C'est par les ordonnances de 1969, il y a deux ordonnances de 1969 qui ont consacré le système de passation de marché public en République démocratique du Congo. Alors, ce qui fait qu'en 2003, après avoir évalué le système de passation de marché, on s'est rendu compte qu'au fait, 90% des marchés publics étaient passés par la voie de gré à gré. C'est ce qui a poussé le gouvernement, l'État, ainsi que les partenaires financiers du gouvernement à mettre sur pied ou en place des fiduciaires.
Qu'est-ce qu'une fiduciaire de gré à gré?
Le gré à gré, bon, c'est... Comme je l'ai dit, je ne sais pas donner un cours de passion des marchés sur un plateau de radio, mais le gré à gré, c'est une passation de marché simplifiée. Ça veut dire que chaque passation de marché a des étapes qu'il faut suivre.
Oui.
Alors, le gré à gré, on y recourt lorsqu'il y a des besoins urgents, récurrents, qui nécessitent que l'adjudicataire, dans les vieux temps, puisse s'adresser directement à la société ou au soumissionnaire qui est capable de réaliser des travaux. Voilà, donc c'est une forme simplifiée des marchés publics qui permet directement d'entamer les travaux, moyennant consensus, concertation, et voilà.
D'accord.
Voilà. Alors donc, comme je le disais tantôt, donc c'est par ces ordonnances-là de 69 que le système de passation du marché a été introduit en République démocratique du Congo. Alors, en 2003, fort de l'évaluation qui a été faite, il fallait revoir le système de la passation de marché. C'est ainsi qu'il aura été créé en son temps une commission pour la réforme des marchés publics. Et les résolutions de cette atelier ou de ces assises ont pousser le gouvernement à promulguer la loi 10-010 telle qu'elle a été promulguée le 27 avril 2010 relative au marché public. Voilà. Et dans un premier temps, il était question de mettre sur pied des cellules pilotes, des cellules test pour lancer cette passation de marché. Et c'était une réussite, l'expérience des cellules pilotes. Et à ce jour, les autorités contractantes, les directeurs, les directions générales des grandes entreprises ou des services publics sont dotés des cellules des marchés publics. Donc c'est comme ça. Donc pour la petite historique, c'est ça. Disons qu'il y a une passation de marché aujourd'hui.
Oui.
Le pays est doté d'un outil pas de moindre qui répond aux standards internationaux.
Oui.
Donc voilà.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on décrit souvent la corruption? La corruption est très est souvent décriée lors de ces processus de passation des marchés publics.
Oui, la
passation. Quelles sont les raisons?
Oui, au fait, les raisons, il y en a plusieurs. Ça dépend de la manière dont vous considérez les marchés publics. Alors, je voudrais ce matin que nous puissions avoir une approche assez particulière sur les marchés publics. Vous savez que la réforme des finances publiques a aussi pour pilier la mise en place d'une législation forte en marché public. Alors, ce matin, je voudrais qu'avec vous, nous puissions regarder la passation de marché comme l'un des piliers de la réforme sur les finances publiques. Parce que, dès lors qu'un budget de l'État est voté, il y a, dans la loi budgétaire ou selon les rubriques budgétaires, il y a ce qu'on appelle les dépenses en investissement. Les dépenses en investissement, ce sont ces dépenses pour lesquelles l'État peut acquérir pour au-delà d'une année. Alors, pour ces dépenses d'investissement, ce sont des gros moyens que le gouvernement met à la disposition des services publics, centraux, peut-être provinciaux aussi. Il met à la direction, à la disposition des directions générales, des grandes entreprises.
Oui.
Alors, voyez-vous, ces moyens-là, ils sont tellement colossaux que aujourd'hui, on peut dire que les phénomènes rétro-commission n'est autre que la conséquence du non-achèvement de ce processus.
Parce que c'est devenu fréquent, par exemple, une entreprise qui doit avoir le marché de réhabiliter une route, et elle soumissionne, et puis on donne l'argent. Bon, l'agent qui est en train d'attribuer les marchés publics dit, voilà, il faut me retourner 40% du montant, ou soit ils sont organisés, donc le phénomène de la prébande, et vous retournez l'argent, et le montant ne vous permet pas d'exécuter les travaux tels que convenu, et après on a des routes. Alors aujourd'hui, c'est on réhabilite, et demain, voilà, la route se détériore, ça traîne pas, et parfois on arrête certains, mais on leur dit bon, on va en prison, c'est pas un problème, on va jouer pour, on va payer pour que tu sortes, quand tu fasses sortir de là 3 mois après. Et ça, c'est je crois que vous êtes au courant de tout ce qui se passe, monsieur Olivier.
Sans vouloir affirmer ou infirmer ce que vous êtes en train de dire, je voudrais plutôt vous dire que les efforts menés par le gouvernement de la République devraient s'asseoir sur 4 axes ou 4 piliers.
Lequel?
Le premier, c'est le cadre législatif et réglementaire. Aujourd'hui, nous pouvons dire que ces piliers, c'est vraiment une réussite parce que nous avons une loi qui répond aux standards internationaux. Le deuxième pilier, c'est le cadre institutionnel et les capacités de gestion. Ça veut dire qu'il fallait non seulement avoir une loi, mais il fallait mettre sur pied des structures capables d'assurer la passation du marché. Aujourd'hui, dans nos services publics, dans nos directions générales, on voit des cellules de marché publics. Voilà, c'est une réussite. Alors, là où il y a le problème, c'est au troisième et au quatrième pilier, où le quatrième pilier devait être caractérisé par la pratique des marchés. Et cette pratique des marchés nécessitait normalement une intervention assez rigoureuse de la Fédération des entreprises du Congo avec le gouvernement. Vous voyez, ce manque de dialogue entre le secteur privé et public donne quand même accès aux uns, aux autres, à entrer dans des pratiques collusoires et à toutes sortes de manœuvres. Le quatrième pilier, c'est l'intégrité et la transparence du système de passation de marché.
Il n'y a pas assez d'intégrité, il n'y a pas de transparence.
Bon,
c'est qui favorise la corruption, phénomène rétro-commission.
Il faut dire aujourd'hui que la passation de marché dans notre pays est une matière assez complexe, assez jeune, qui vient, voyez-vous, on venait des adjudications, aujourd'hui nous sommes aux appels d'offres. Alors il faut, le changement de mentalité, c'est quelque chose qui vient avec le temps, parce que voyez-vous, il fallait enlever cette mauvaise mentalité qui, dans les adjudications, consiste à passer la plupart des marchés publics de gré à gré pour prendre maintenant les procédures telles qu'elles sont. Voyez-vous, lorsque vous lisez l'actuelle loi, vous vous rendrez compte que la nouvelle loi, elle est innovante. Voyez-vous.
Même dans la passation des marchés, vous voyez un agent public qui assiste, qui accorde le marché facilement à une entreprise, à une certaine entreprise. Il a des liens avec le propriétaire, une entreprise créée rapidement pour avoir le marché.
Oui, ce qui me pousse donc à vous parler du quatrième pilier, qui est le pilier relatif à l'intégrité et à la transparence du système de passation de marché. Dans ce pilier, il était aussi question pour le gouvernement d'assurer la motivation. Voyez-vous, la plupart de ces agents qui sont commis dans des cellules de marché public sont des fonctionnaires de l'État. Voyez-vous. Alors, pour un même salaire, ils sont obligés de travailler 2 fois. Aujourd'hui, on doit le dire, les cellules de marché public, oui, elles existent, mais pour quelle rémunération? Toutes les cellules ne sont pas payées.
Ces agents ne sont pas payés.
Non, ils ne sont pas payés. Là, je dois vous le dire. Parce qu'il était prévu, en créant ces cellules, qu'il soit signé un arrêté interministériel entre les ministres de Finances et de Budget pour voir comment allouer une indemnité de suggestion à ces agents commis aux cellules de marché public. Mais jusqu'à ce jour, voyez-vous, depuis 2010, où la loi a été promulguée, jusqu'en 2014, il y a rien qui a été fait dans ce sens. Alors, voyez-vous, vous passez les marchés des millions de francs congolais, mais vous-même, vous êtes sous-payé, pour ne pas dire impayé.
Et ça favorise la corruption.
En tout cas, je ne sais pas affirmer, mais voyez-vous, les conséquences sont à constater.
Bien, nous avons déjà en ligne Juvenal Lebon qui nous appelle les Kindou. Vous voulez également participer, vous avez des témoignages, des préoccupations, n'attendez pas les dernières minutes. Appelez-nous au 081 890 63 94.
Radio Capi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien du gouvernement de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.
Phénomène rétrocommission dans la passation des marchés publics. Quelles sont les causes et solutions? Juvenal Lebon, vous êtes à Kindou, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Juvenal.
Maintenant, c'est mes notes passées partout. C'est comme les retours à les solitaires.
Oui, Juvenal, s'il vous plaît, si vous avez votre radio allumée, veuillez l'éteindre ou diminuer sensiblement le volume. Vous allez suivre à partir de votre téléphone pour éviter les effets retours à l'antenne.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il existe même ici à Kim,
on a remarqué... Juvenal, vous êtes toujours à côté de votre radio. Vous n'avez pas éteint la radio.
Je suis très loin de la radio.
Alors, peut-être c'est un problème de voix. Il me dit qu'il est très loin de la radio. C'est peut-être un problème avec votre téléphone. Bon, veuillez nous. Allez-y alors. Alors, il est parti, il va encore nous rappeler. Il parlait du phénomène retour à l'expéditeur. Voilà, c'est comme ça qu'on s'appelle encore. Rétrocommission, retour à l'expéditeur. Vous gagnez le marché, on vous donne l'argent. Pensez aussi à moi et puis retournez-moi à 40%. Généralement, on demande combien de pourcents. Ces agents-là demandent combien, monsieur Olivier?
Bon, on sait que je suis dans la pratique. Je n'ai pas encore, de mon côté, enregistré ce genre de cas. Oui. Voyez-vous, mais il faudrait plutôt voir la procédure. Voyez-vous, la procédure, la célérité de la procédure. Alors, le problème avec la passation de marché aujourd'hui, c'est que à chaque étape, ce sont d'autres acteurs qui jouent. Vous savez, avec la nouvelle loi, il n'y a pas seulement les cellules des marchés publics, il y a ces cellules qui travaillent avec la DGCMP, qui est la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics, et l'Autorité de Régulation des Marchés Publics. Alors, la cellule des marchés publics elle-même, elle travaille en amont avec la DGCMP et en aval avec l'ARMP, qui est là pour auditer, mais c'est un audit organisationnel, un audit sur la procédure. Alors, si aujourd'hui on parle de phénomène
retour à l'expéditeur,
ou effet rétro, donc ce sont des pratiques qui se font de manière, comment dire, donc ça. Ce sont des pratiques qui se font, bon voilà, c'est pas institutionnel, c'est pas quelque chose qu'on peut au grand jour, mais ce sont des accords secrets qui se font à gauche à droite, parce qu'aujourd'hui, ces cellules, lorsque vous déposez vos dossiers, il y a des sous-commissions d'analyse qui analysent les offres. C'est peut-être là les enjeux, voyez-vous.
Parce que, enfin, mais la corruption peut intervenir à tous les niveaux. Vous avez dit il y a plusieurs processus.
Mais je crois plutôt que
plusieurs étapes dans le processus.
Oui, plusieurs étapes dans le processus. Mais si on peut parler de corruption, bon voilà, il y a les autorités contractantes, parce qu'au finish, c'est le gestionnaire des crédits à qui on présente les éléments. Parce que ces cellules des marchés publics ont à leur tête un président de la commission de passation de marché, qui peut être soit un ministre, soit un directeur général d'une grande entreprise ou d'une régie financière. Tout ce que la sous-commission fait comme travail, il va soumettre. Alors là maintenant, je peux dire que cet effet retour dépend aussi du niveau de la conscience de l'homme politique qui est à la tête du ministère ou de ce service public.
Parce qu'il y a même des politiques qui demandent l'opération retour à l'expéditeur.
Comme je vous ai dit tantôt, donc je ne sais pas confirmer ou
alors, si vous ne donnez pas, vous refusez de donner, on ne vous attribue pas le marché.
Bon, Voilà. Donc, je préfère que ça vienne de vous, mais pas de moi, parce que moi, je suis dans la pratique, voyez-vous. Donc, ce qui est vrai, c'est que le processus est à plusieurs niveaux. Alors, ceux qui ont la possibilité de corrompre, c'est... s'il y a des parties bien ciblées. Il se dit, je peux voir l'autorité, je peux voir celui-ci, je peux voir celui-là.
Alors, quelles sont les conséquences de ces phénomènes?
Oui,
les conséquences que cela entraîne?
Oui, elles sont vraiment néfastes. Le problème, c'est qu'il peut arriver que vous ayez attribué un marché à un entrepreneur qui n'a pas la capacité financière de terminer les travaux. C'est comme ça que nous verrons à Kinshasa ou partout dans la République, il y a des travaux qui commencent pour ne pas se terminer.
Oui.
Voyez-vous, bon. Il faut aussi dire que les marchés tels que financés par les trésors publics obéissent aux principes budgétaires. Ça veut dire le circuit de la dépense publique. Ça veut dire que ce n'est pas du tic au tac que vous êtes payé. Voyez-vous, donc il y a un bon d'engagement qui est signé, il doit passer à toutes les étapes de la chaîne de la dépense, ça va au ministère du budget, au ministère de finances, la liquidation, toutes ces étapes jusqu'à obtenir le paiement. Alors ce qui fait que la société ou l'entrepreneur à qui est attribué le marché doit avoir une capacité financière qui lui permette d'assurer les travaux en attendant ses paiements.
Alors, comment vous appelez ça, le préfinancement?
Bon, puisque la loi ne parle pas de préfinancement, donc je ne sais pas vous parler de préfinancement.
Oui.
Donc nous finançons. Donc lorsque le marché public est financé par le trésor public, l'entrepreneur doit savoir que...
doit avoir la capacité lui-même financière de commencer les travaux.
D'ailleurs, au début, avant qu'une société puisse être admise à compétir, il y a la garantie financière. Vous voyez, il y a la garantie financière qu'il doit prouver. Bon, il faut dire que si aujourd'hui on peut parler de corruption, bon voilà, parfois les banquiers aussi ne nous facilitent pas la tâche. Voyez-vous,
parce à quel niveau?
Non, parce que une société ou un soumissionnaire peut aller chez son banquier pour dire, voyez-vous, je devrais postuler pour telle offre, mais on me demande d'avoir une garantie d'autant. Est-ce que vous pouvez me faire un document qui atteste que j'aurai la capacité? Mais voilà, parfait, ça se fait. Parfois ça se fait au niveau de la banque, et la banque, quand nous, dans la cellule des marchés publics, nous voyons la société XYZ qui possède une garantie financière suffisante, on se dit ok, possible. Mais dans la pratique, on se rendra compte que la société n'a pas la capacité de commander tels articles qui devaient venir de l'extérieur ou de financer telle partie de travaux. Voilà. Donc ce sont des cas que nous constatons sur le tas. Et parfois nous sommes impuissants nous aussi. À notre tour.
Vous constatez seulement.
Oui, nous constatons. Mais dites-moi, monsieur, si vous avez attribué un marché à une société X et que vous vous rendrez compte à mi-chemin que la société n'est plus capable d'avancer avec les travaux, qu'est-ce que vous faites? La passation de marché, la procédure est telle que vous ne pouvez pas retirer à quelqu'un un marché comme ça. Donc, c'est pas sans
conséquence. Alors, si le marché est déjà attribué, c'est fini.
Oui, le marché, il est attribué. Et je voudrais même dire ici, il faudrait que le commun de mortels qui nous suit à travers cette station d'antenne sache une chose. Lorsqu'on parle des marchés publics, en réalité, il s'agit des contrats administratifs. Lorsqu'on parle des contrats administratifs, ce sont des contrats qui diffèrent des contrats du droit commun. Ça veut dire, nous avons en face de nous un opérateur économique, une société qui cherche le bénéfice, qui est en face d'un pouvoir public, qui lui ne recherche pas le bénéfice mais l'intérêt général. Alors sachez que dans ce genre de contrat, il y a ce qu'on appelle le privilège exorbitant de l'État qui pèse. Donc c'est vrai, dans un contrat c'est gagnant-gagnant, mais vous vous rendrez compte que dans ce genre de contrat, il y a toujours l'État qui pèse, il y a l'État qui doit toujours gagner un peu. Pourquoi? Parce que l'État, lui, il cherche l'intérêt général, contrairement aux particuliers qui cherchent...
Alors, vous avez dit comme conséquence, il y a beaucoup de travaux qui n'avancent pas, qui s'arrêtent en cours de chemin, surtout avec les routes.
Oui.
On commence les travaux de réhabilitation, à un moment donné, tout s'arrête parce qu'il n'y a plus de fonds pour avancer. Tout ça, lorsqu'on essaie de suivre, il y a ce phénomène des retours à l'expéditeur qui intervient. Un auditeur nous appelle de Kinshasa, il s'appelle Patient Paul. Bonjour Patient.
Bonjour Jody, ainsi qu'à l'invité.
Bon, on vous écoute.
Oui, donc j'ai une petite préoccupation à soumettre à notre invité.
Oui.
Oui. Pour gagner un marché auprès de l'État ou toute autre donc société, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les préalables à suivre? Car le Congo dispose autant d'hommes possédant d'énormes sommes, mais qui sont bloqués suite aux exigences et autres choses qui découragent, comme par exemple les taxes à multiplication. Et puis donc la deuxième question de savoir, je vois donc l'État confier les marchés aux Chinois pour divers travaux, donc avec comme promesse ou intention que les Chinois prennent soin des ouvriers qui sont engagés. Mais à notre grande surprise, les Chinois les utilisent mal Et cela favorise le vol et le tournement des biens, des outils, des travaux, au cas où ces firmes donc décident d'arrêter les activités pour toutes ces difficultés. Que doit-il se passer alors que les contrats étaient fixés en bonne et due forme? Et puis la dernière préoccupation est la suivante. Quel est l'avantage lorsque un individu s'engage à réhabiliter une route qui présentait donc un danger, mais dont l'État ne songe pas à réfectionner? Donc voilà mes trois questions.
Bien, merci. Monsieur Olivier, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, par rapport à sa première préoccupation, elle est fondée, mais il faut le dire une chose, pour compétir dans les marchés publics, tels que lancés dans nos cellules des marchés publics, il faut se constituer en personne morale, ça veut dire être une société. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, il y a le ministère de la Justice qui a facilité les opérateurs économiques qui veulent se lancer dans le monde des affaires avec la création du guichet unique. Donc, vous avez tous les documents qu'il vous faut pour vous constituer en société. Donc, il faut être une société, donc une personne morale.
Oui.
Voilà, donc, ça c'est ce que nous disons, c'est remplir les capacités juridiques. Je peux résumer ça comme ça. Voilà. La deuxième question était relative à...
Au marché confié aux Chinois, qui ne payent pas les travailleurs. Ça favorise les vols, tout ça.
Bon,
les travaux ne sont pas bien réalisés.
Ok. En ce qui concerne les marchés confiés aux Chinois, nous voulons dire que dans nos cellules des marchés publics, lorsque nous lançons les avis d'appel d'offres, ces avis d'appel d'offres dépendent. Il y a des avis d'appel d'offres qui peuvent être nationaux, et là, il n'y a que les sociétés nationales qui peuvent compétir. Et il y a ces avis d'appel d'offres qui sont internationaux. Là, c'est toute société à travers le monde qui se sent intéressée, qui peut compétir. Je ne vois pas d'inconvénient à une société anglaise, chinoise, française venir compétir pour des marchés dont les appels d'offres sont internationaux. Là, il n'y a pas de problème à ça. Mais quant à ce qui concerne la rémunération des travailleurs congolais employés dans les firmes étrangères, je crois que là, il appartient au ministère sectoriel, ça veut dire le ministère de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, pour s'assurer que réellement les travailleurs qui sont déployés sur les chantiers sont munis des précautions pour la sécurité des travailleurs en milieu de travail.
Bien, phénomène rétro-commission ou retour à l'expéditeur lors des passations des marchés publics. Quelles sont les causes et solutions? On reçoit aujourd'hui M. Olivier Mangbetin, spécialiste en passation des marchés. Des questions et préoccupations, n'attendez pas les dernières minutes, appelez-nous au 081 800 90 63 94.
Au capé.
Bien, monsieur Olivier, on retient qu'il y a des accords secrets qui se passent lors des passations des marchés publics. Il y a certains politiques, même certaines autorités qui sont impliquées dans ces phénomènes de retour à l'expéditeur. Alors, quelles sont les solutions aujourd'hui?
Bon, les solutions, il y en a plusieurs, mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes en train de rechercher ces solutions au même moment que nous sommes en train d'en proposer. Voyez-vous? Alors, nous disons, quand les cellules sont venues dans nos services centraux, la difficulté que nous avons, c'est que la plupart de nos dirigeants n'ont pas un aperçu sur la nouvelle loi. Donc nous disons, cette loi sur les marchés publics a besoin d'être vulgarisée à tous les niveaux. Et nous lançons ici un appel pour dire que, étant une loi nationale, il ne faut non seulement laisser cet apanage à l'ARMP qui vulgarise la loi, mais nous croyons que la société civile, les acteurs, voyez-vous, peuvent aussi s'en prévaloir pour vulgariser la loi.
Mais dans ces pays, important. Nous avons des lois bien élaborées, mais qui ne sont jamais respectées. Malgré ça, la corruption continue.
Oui, ce qui est vrai, c'est vrai, c'est ce que nous décrions, c'est ce que nous constatons. Mais le problème, ce n'est pas seulement de déplorer une situation, mais c'est de se mettre à l'œuvre. Vous voyez, nous sommes tous Congolais. Je crois que chacun des Congolais devra mettre la main à la pâte pour, j'encourage à cet effet, les bureaux d'études spécialisés en passation de marché, les cabinets, à vulgariser cette loi aux côtés de l'ARMP pour que les acteurs de la commande publique, les hommes politiques, les décideurs, les chercheurs aient une idée sur ce qu'est cette nouvelle législation.
Mais si par exemple une entreprise veut décrocher un marché,
oui,
et une autorité vous dit, bon, vous me donnez 40%, sinon j'attribue le marché à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a moyen de dénoncer tout ça?
Bon, ce qui est vrai d'abord, c'est qu'au regard de la nouvelle loi, donc l'autorité n'a pas à conditionner l'octroi du marché à un certain pourcentage d'argent. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le problème, c'est qu'il faut, vous savez, aujourd'hui, avec la nouvelle loi, la possibilité est faite à toute personne qui se sent intéressée par la procédure de demander l'annulation de la procédure. Voyez-vous. Mmh. Donc, il faudrait, d'abord, les séances d'ouverture des plis, elles sont publiques, contrairement à la procédure des adjudications où ces séances étaient à huis clos. Donc, ça veut dire aujourd'hui, lorsqu'il y a 4-5 sociétés qui compétissent pour un marché de l'État, donc les 4 doivent savoir avec qui elles sont en train de compétir, oui, et à hauteur de quel montant chacun a proposé. Et lorsque un soumissionnaire n'est pas d'accord avec les résultats de l'évaluation, il peut adresser son recours à la direction des marchés publics, l'autorité des marchés publics via le comité de règlement de différends.
Professeur Niassa nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui, je voudrais apporter ma petite contribution à l'intéressant sujet que vous êtes en train de débattre. Comment, oui, mettre fin à ce phénomène de
retour à l'expéditeur, oui.
Vous savez, nous, en automatique, monsieur le journaliste, nous disons que tout système qui n'a pas une boucle de rétroaction, donc que nous appelons système ouvert, est un système qui peut donner de très mauvais résultats. En quelques mots, je voudrais dire ceci. La solution radicale, c'est l'indépendance de la justice. Si notre justice est indépendante, qu'elle peut juger n'importe qui, que tout le monde est sous la loi, et si en plus de cela, nos journalistes sont assez bien payés pour qu'ils fassent leur métier avec conscience, eh bien les choses iront très bien. Imaginez ce qui vient de se passer en France avec l'UMP. Dès qu'on a découvert qu'il y avait eu des problèmes au niveau des élections avec l'UMP, le président de l'UMP a été interpellé et vous voyez la suite. Donc, dès lors que la justice n'est pas indépendante chez nous, même si on apprenait que le président d'une commission d'attribution des marchés, c'est tel ministre ou tel directeur général, et s'il n'y a pas de justice, il pourra toujours corrompre. J'ai fait plusieurs années dans les cabinets, je sais ce qui se passe.
Oui.
En général, ces marchés, ils proviennent d'où? Les gens vont d'abord chercher des contacts à haut lieu. Et quand on dit haut lieu, c'est la présidence de la République, c'est le ministère. Et quand ils viennent ici, ils viennent vers vous, ils sont déjà couverts. Et en plus, on a vu des cas. Regardez la route, la ville de l'université, au niveau de Moutoulou. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez voir aujourd'hui. On sait bien que le phénomène tel que vous l'avez expliqué, on attribue un marché à quelqu'un, on, oui, lui réclame 40%,
oui,
l'argent qui lui reste ne suffira plus, il fait un mauvais travail,
oui,
le BTC, le bureau technique de contrôle, lorsqu'il va passer, lui aussi, on va essayer de l'écumer, et puis il va se taire. Si nous voulons réellement oui, bâtir notre pays, nous devons
Niassa
mettre en place une justice indépendante,
professeur,
une
Niassa
justice qui sévit contre tout le monde.
Professeur Niassa, vous voulez dire que la corruption dans ces secteurs-là s'est faite à plusieurs niveaux. Il y a des couvertures à gauche, à droite.
Mais c'est sûr. Écoutez, je suis allé hier voir un collègue, professeur de son état, en polytechnique aussi. Il a un bureau d'études. Je lui dis, mon cher, je voudrais créer un bureau d'études. Il me dit, n'essaie pas. Je dis pourquoi, il me dit, mais écoute, il m'a expliqué. L'année dernière, en 2013, il a eu comme recette 80 000 francs. Il y a 80 000 dollars.
Oui.
Il a déduit ses dépenses, il lui restait 16 000 dollars de gains. Et la loi prévoit qu'il doit payer 40% de ses 16 000 dollars à l'État. Alors, les gens de la DGRAD ou de la DG, ils sont allés chercher des factures, ils sont allés faire le contrôle, ils sont revenus lui dire, non, tu dois payer, c'est pas moi, 40 000 dollars à l'État. Entre-temps, ils lui disent, les 8 000 dollars là que tu devrais payer, tu nous donnes 6 000 dollars et 2 000 dollars qu'il va verser à la caisse de l'État. Vous trouvez ça normal? Mon collègue m'a prouvé qu'on peut multiplier le budget de la RDC par 5 en une année, si on coince tout ce qui détourne l'argent de l'État.
Oui.
Oui. Le vrai problème, c'est quoi? C'est la prise de conscience de la population que ce pays nous appartient à nous tous. Combien de Congolais sont en train de vous suivre? Si c'était une émission de musique, tout le monde serait là. Alors que c'est le sujet que vous traitez qui conditionne notre bonheur. Oui.
Voilà. Donc on retient que c'est un phénomène généralisé. Et les...
C'est un phénomène généralisé et c'est pourquoi nous avons des problèmes. Il faut une vraie justice. Il faut une justice
indépendante. Oui.
Il faut que tout le monde soit sous la loi. On vous attrape. D'abord que les journalistes fassent leur travail, qu'ils fouillent partout. Dès qu'on a détecté quelque chose, qu'ils rendent ça public et puis que les inspecteurs judiciaires descendent sur les lieux pour contrôler. Et si on vous surprend, qui que vous soyez, vous allez d'abord à Makala. C'est comme ça que les gens auront peur.
Oui. Merci, professeur Niassa, pour cette intervention. Monsieur Olivier, réaction après d'avoir écouté le professeur Niassa.
Bon, c'est bien, la justice va faire son travail, oui. Non, nous disons...
Il dit qu'il faut une justice indépendante.
Oui, hein. Il faut la justice indépendante, il n'a pas tort, mais ce n'est pas tout. Donc, comme nous disons, lui, il parle de la justice, nous parlons de la motivation qu'il faudrait allouer à ceux qui travaillent d'abord dans ces cellules des marchés publics.
Pour les mettre à l'abri de la corruption.
Pour les mettre à l'abri de la corruption, ça c'est très important. Je ne peux pas comprendre que vous passez un marché d'une valeur marchande ou de 2 millions de dollars, mais que vous-même, vous n'ayez pas été payé pendant 6 mois. Alors dites-moi, s'il y a transiger, vous allez transiger. S'il y a négocier, vous allez négocier. S'il y a marchander, vous allez marchander. Voyez-vous. Donc, il faut dire que les solutions, c'est à plusieurs niveaux. Aussi vrai que la corruption peut se faire à plusieurs niveaux, mais les solutions à prendre, c'est aussi à plusieurs niveaux. Donc, au niveau de cellules, il y a à faire. Au niveau de la DGCMP, il y a à faire. Au niveau de l'RMP, il y a à faire. Voilà.
Donc, il y a à faire à tous les niveaux.
À tous les niveaux.
Et on parle même du phénomène pré-bande, parce que ces gens fonctionnent à bande là-bas, ils s'entendent avec l'autre, voilà, on va passer le marché, vous aurez autant, 10%, moi j'ai autant, l'autorité a autant, et c'est fini. Donc, c'est une bande des corrompus.
Bon, ce qui est aussi vrai, c'est que les gens doivent savoir qu'il y a certains marchés pour lesquels le groupement d'entreprises est admis. Là, c'est prévu dans la loi. Le problème, comme je le dis, donc on ne peut pas commencer à s'attaquer seulement aux effets. Il faut savoir quelles sont les causes réelles. Donc, d'une part, il y a la loi qui a besoin d'être vulgarisée. Parce que dans l'actuelle loi, il est prévu à 2, 3, 4 soumissionnaires de s'allier pour un groupement d'entreprises et compétir. Là, ce n'est pas interdit. Mais maintenant, la loi elle-même définit à l'intérieur de ce groupement d'entreprises quelles sont les responsabilités, qui devra répondre et comment se fait le financement.
Et parfois on a appris, il y a des sociétés qui n'ont jamais existé, lorsqu'il y a un appel d'offres, voilà, on crée rapidement une société, on monte rapidement une société et c'est celle-là qui va décrocher le marché.
C'est pour cela que je dis, c'est à plusieurs niveaux. J'ai dit, les banques doivent nous aider, les services de l'État qui travaillent à délivrer ces autorisations, tous ces documents, ils doivent nous aider. Je ne peux pas comprendre qu'une société qui est née le matin à 8h, à 12h, elle va compétir et à 18h, elle gagne un marché, voyez-vous. Alors là, la responsabilité, ce n'est plus au niveau des autorités contractantes, parce que nous n'attendons que les documents. Si aujourd'hui, pour être admis à compétir à un marché, on vous demande l'autorisation de registre de commerce, nous n'avons pas besoin de savoir d'où est-ce que vous l'avez eu, mais nous avons besoin de savoir que c'est un document juridique, un document fiable et dont la juridicité ne sera incontesté. Là, nous regardons, nous acceptons. Mais qui vous l'a donné? Quand est-ce qu'on vous l'a délivré? Là, c'est pas le problème de la cellule. C'est pourquoi nous disons que le travail, il est à faire à plusieurs niveaux. Donc, il faudrait que chacun, par rapport à son secteur, puisse mettre de l'ordre et verrouiller le système.
Et tant qu'il n'y aura pas des sanctions, voilà, c'est la fête qui va continuer.
C'est la fête qui va continuer.
La fête va continuer. Et même si on arrête, il y a certains soumissionnaires.
Non, mais
disons, il y a certaines entreprises qui ont décroché des marchés et qui n'ont pas réalisé les travaux, par exemple les routes. Et après, on se rend compte que les travaux ne sont pas terminés, on arrête le monsieur. Mais comme il a des couvertures un peu partout, il va en prison et quelques temps après, la personne est libérée.
Pas. Ne vous en faites pas. La corruption, elle existe même à l'échelle internationale. Voyez-vous, donc c'est quelque chose pour lequel on réfléchit, on voit, on est en train de voir comment essayer de faire partir la corruption dans nos milieux. Donc l'idéal, c'est d'abord de réduire le niveau de corruption dans nos services publics. Mais ce qui est vrai, la corruption, elle existe à tous les niveaux. C'est à nous de réfléchir, de voir comment faire pour faire partir cette mauvaise pratique de nos institutions. D'ailleurs, pour nous autres, ça ne fait qu'affaiblir, au fait. Voyez-vous, ce système de passation de marché sera fort renforcé lorsqu'on se rendra compte vraiment que le taux de corruption est faible, pour ne pas dire inexistant.
Inexistant. Professeur Niassa a proposé, il faut qu'il y ait d'abord une justice indépendante.
Voilà.
Et puis les journalistes d'investigation. Il faut qu'il y ait les journalistes d'investigation qui peuvent enquêter sur des tels cas et les mettre à la place publique. Et la justice peut s'en saisir et sanctionner les coupables. Bien, Monsieur Olivier Mangbeta, spécialiste en passation des marchés à la cellule des marchés publics du ministère de la fonction publique, nous vous disons merci.
Je vous remercie.
Et à la prochaine.
Merci.